Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scutter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. A tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes toujours sur le podcast Ohana. Nous avons bien entamé notre série sur les blessures et la prévention des blessures dans le triathlon. Après une présentation générale, un épisode spécifique sur les blessures en natation, nous continuons avec un épisode spécifique sur les blessures en vélo. Pour m'accompagner, eh bien, j'ai Olivier De Scutter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier.
Hello Hermano. J'aimerais jouer de pouvoir parler vélo aujourd'hui.
Ah oui, ton sport de prédilection, c'est vrai. Et puis, officiant comme notre spécialiste santé et de la question, eh bien, nous avons toujours Mehdi. Salut Mehdi.
Salut Hermano, salut Olivier.
Mehdi, aujourd'hui, au programme, ce sont les blessures en vélo. Alors, est-ce que tu peux déjà préciser quelles sont les blessures prédominantes que l'on peut rencontrer en vélo? Encore une fois, on parle de blessures liées à l'entraînement et pas forcément d'atteintes liées à des chutes ou à des accidents.
Les atteintes dépendent évidemment des sportifs et de leurs antécédents médicaux. Généralement, on constate qu'il y a le symptôme le plus présent, c'est le syndrome de la branlette iliotibiale ou bien syndrome de l'essuie-glace. C'est un nom un peu barbare, mais l'essuie-glace parle bien. Il y a une petite bandelette sur la face latérale du genou et qui vient frotter sur une protubérance osseuse du genou. Et ce mouvement de va-et-vient qu'on peut rencontrer aussi en course ou en vélo provoque une irritation de ces fibres et du coup une inflammation. Ça, c'est le syndrome que l'on rencontre le plus souvent. La deuxième atteinte que l'on peut voir, c'est aussi la tendinopathie d'Achille, ou tendinite, plus couramment tendinite d'Achille, ou tendon calcanéen, qui est à la base du pied. On la rencontre aussi en vélo, et la course à pied, elle vient d'une sursollicitation, et c'est une inflammation du coup du tendon ou de sa gaine au niveau du pied.
Est-ce qu'il y aurait aussi des atteintes au niveau du dos, par exemple? Je pense à ça par rapport aux positions du vélo.
Oui, alors les atteintes qui arrivent par la suite, ce sont des dorsalgies. Alors on parle de lombalgie, les douleurs qui intéressent la partie lombaire, le bas du dos, et des cervicalgies, les douleurs au niveau des cervicales du cou. Le réglage du matériel est vraiment important à ce moment-là, parce qu'une mauvaise hauteur de selle, une mauvaise longueur de la potence peut provoquer des douleurs à ce niveau.
Oui, c'est vrai que autant en natation, bon, à la limite, il y a l'élastique, mais ça, il suffit de savoir le régler, et puis on prend un peu d'eau dans les yeux et on vide et on recommence, on règle un peu mieux. En course à pied, le matériel qui peut nous gêner, ça va être les chaussures qui seraient pas adaptées, et donc là, on aura quelques frottements. Mais par contre, en vélo, je pense que c'est là où le mauvais réglage sur le matériel peut vraiment impacter le plus dans les trois disciplines.
Effectivement, c'est une discipline où on court avec un matériel qui est assez sophistiqué. C'est quand même un cas de vélo avec des roues, avec une chaîne, enfin. Du coup, chacun des réglages est important. En natation, on est en quelque sorte seul dans l'eau, et la course à pied, seul sur la terre. Le seul matériel, ce sont les baskets ou le maillot, ce genre de choses. On utilise du coup beaucoup plus de matériel lors de l'épreuve du vélo, et du coup son réglage est primordial.
Et finalement, si on exclut les chutes, est-ce qu'on peut dire que toutes les blessures à vélo sont dues justement à des questions de posture? Et donc, si on a une posture idéale, on risque de ne jamais se blesser?
Malheureusement, non. Ça serait trop simple et trop beau. Le problème, comme on a parlé dans les autres jours, c'est aussi les antécédents du patient. S'il y a déjà des blessures préexistantes chez le sportif, elles peuvent ressurgir à ce moment-là. Alors, au-delà des anciennes blessures que la personne peut avoir, il y a aussi certaines attitudes positionnelles qu'on peut avoir et qui peuvent engendrer, enfin, en tout cas, majorer ces affections. On parle, par exemple, de rotation externe de hanche, de flexum du bassin, de mauvais positionnement du pied. Et du coup, ces petits mauvais positionnements provoque une sursollicitation à certains endroits et du coup, ça peut développer certaines douleurs.
D'accord. Et est-ce que la durée, la distance peut aussi impacter les différentes blessures?
Comme dans toutes les disciplines, les douleurs et principalement les tendinopathies sont dues à une sursollicitation. Comme dans l'énorme majorité des sports, un mauvais entraînement, une sursollicitation, une surcharge de travail provoquera du coup des atteintes. Et si la distance est trop longue, si on est mal préparé, si on ne gère pas bien sa charge de travail et son temps de récupération, du coup, les problèmes peuvent arriver également.
Alors, une question très bête, mais est-ce que tu es au fait ou est-ce que tu as déjà rencontré des blessures, notamment liées à la position aéro en triathlon ? On parle peut-être plutôt cela de triathlon plutôt long, donc du semi-Ironman, de l'Ironman, où les cyclistes sont allongés sur leur guidon triathlète. Est-ce que ça arrive qu'il y ait justement des positions, des douleurs qui soient générées par cette position ? Peut-être parce que le triathlète ou la triathlète tire sur le prolongateur tout en posant les coudes sur le guidon, et donc ce fait de tirer va peut-être créer des douleurs au niveau des poignets ou alors au niveau des coudes ?
Pas forcément, non. Au niveau des poignets, c'est assez rare. On rencontre ça dans le vélo tout-terrain. Là, on rencontre parce que ces micro-chocs qu'il peut y avoir provoquent des pathologies au niveau des poignets. On parle de canal carpien. Chez les cyclistes en général ou chez le triathlète, généralement, avec ce positionnement-là, il y a des douleurs au niveau cervical parce qu'on a tendance à vouloir redresser un peu plus la tête. Et du coup, les muscles qui sont situés à la base du crâne sont du coup en perpétuelle tension. Et il y a un écrasement un peu des facettes articulaires postérieures au niveau de la nuque, ce qui peut développer des douleurs et des maux de tête, ce genre de choses.
Pour illustrer effectivement ces problèmes de sursollicitation des articulations, c'est vrai que moi j'ai une petite anecdote personnelle. J'ai eu l'occasion de faire Paris-Roubaix il y a quelques années à vélo. Alors, j'étais pas en VTT, donc c'était un vélo, c'était pas un vélo de route non plus, c'était ce qu'on appelle un vélo de cyclo-cross, donc avec des roues un tout petit peu plus larges, mais quand même un cadre rigide et sans aucune suspension. Bon, alors en plus évidemment d'avoir oublié mes gants et de me retrouver avec des énormes ampoules, parce qu'il faut savoir que Paris-Roubaix c'est pas loin de 180 km, mais avec une cinquantaine de kilomètres de secteur pavé, et c'est des pavés qui sont assez agressifs. Et donc c'est vrai qu'en fait finalement rien que ces chocs là sur cette distance, ça m'a fait terminer en fait avec en plus des ampoules des douleurs dans les articulations, et c'était depuis les phalanges de chaque doigt jusque dans les genoux, le dos, les coudes, les épaules. C'est vraiment à chaque articulation qu'on le sent. Donc effectivement, j'imagine que si on part soit sur du cross, soit sur des distances encore plus longues, comme on peut le voir par exemple dans l'ultracyclisme, c'est le genre de choses qui peut venir assez rapidement si on n'est pas habitué.
Effectivement, on a vu quelquefois sur l'ultracyclisme des fractures de stress au niveau du poignet ou des membres supérieurs, ce qui est vraiment extrêmement rare. Généralement, ça intéresse principalement le membre inférieur et jusqu'à la hanche. Quelquefois, certaines vertèbres chez les marathoniens, mais au niveau des membres supérieurs, c'est très rare.
Mehdi, du coup, donc là, on a vu un petit peu quelles sont les blessures les plus classiques que l'on peut rencontrer sur la partie cycliste. Comme hier, on l'a vu sur la partie natation, comment prévenir les blessures sur la partie cycliste ?
Alors, sur la partie cycliste, ça sera la même chose. Ça sera éviter la surcharge de travail, venir étirer les muscles qui sont sollicités, afin de favoriser leur détente, la vascularisation. Il y a certains exercices spécifiques dont j'ai mis quelques illustrations dans le e-book pour venir étendre ce fascia lata ou bandelette iliotibiale. C'est un terme un peu barbare pour dire qu'il est, c'est un gros fascia, c'est-à-dire c'est l'équivalent des fibres d'un tendon. Il est très peu souple. Et du coup, pour pouvoir l'étirer, il faut vraiment faire un travail assez important. C'est pas un muscle où il suffit de faire, on va dire, 4-5 fois 30 secondes pour pouvoir avoir déjà un bénéfice. C'est un fascia, il va falloir l'étirer de manière plus longue et de manière un peu plus agressive. Quelquefois, si on vient travailler, si le sportif vient travailler son fascia lata pour ses douleurs de type essuie-glace, comme on en parlait tout à l'heure, il peut ressortir de chez le thérapeute, kiné, ostéo, avec des bleus sur la face latérale de la jambe. Et on utilise quelquefois quelques outils, des crochets pour venir vraiment étirer chacune des fibres et soulager un peu. Du coup, oui, il faut s'y intéresser, il faut s'y prendre à l'avance, pas la dernière minute.
pour prévenir les types de blessures dont Olivier nous faisait part tout à l'heure, comme par exemple sur de l'ultracyclisme ou sur une course telle Paris-Roubaix. J'imagine que le matériel a son importance aussi. On l'a vu, le matériel joue un rôle dans la blessure s'il est mal réglé, mais là aussi, si on ne met pas un certain type de matériel, comme par exemple des gants, pour revenir sur ce qu'Olivier nous disait, on risque la blessure. Donc le meilleur moyen de prévenir aussi une blessure en cyclisme, c'est parfois de s'équiper correctement.
Bien entendu, il faut s'équiper correctement et il faut s'entraîner aussi. Pour l'ultracyclisme, on ne peut pas se lancer dans l'ultracyclisme directement. Un remodelage qui se fait au niveau du corps, au niveau morphologique, métabolique, neuromusculaire. Et du coup, cette adaptation peut se faire que si le corps a été habitué progressivement à l'effort et pourra répondre de manière non douloureuse à ce moment-là.
Mehdi, il y a quand même une blessure dont on n'a pas parlé en vélo. C'est la selle, les blessures au niveau de la selle, au niveau du fessier. Je pense que tout humain qui se respecte, qui a déjà fait du vélo dans sa vie, s'il a jamais fait de vélo et que il se fait une balade avec les enfants ou même tout seul, après 2 heures de vélo, c'est un peu douloureux. Je vous laisse imaginer pour les gens qui font de l'ultracyclisme ou même un Ironman 180 km, ça représente, suivant les personnes, entre 4 et 6 heures de vélo. Comment est-ce qu'on peut prévenir les blessures? Comment est-ce qu'on peut prévenir des douleurs aux fessiers? Et puis tiens, déjà, une première question. Qu'est-ce que c'est que cette douleur que l'on ressent? C'est une contraction au niveau des muscles fessiers à force d'être assis sur la selle?
Il existe différents types de douleurs. L'importance du matériel est encore une fois mis en avant. Il faut bien adapter sa selle, bien choisir sa selle, avoir un maillot également qui corresponde bien. Il y a différents types de douleurs. Les douleurs musculaires que l'on peut ressentir intéressent principalement soit le piriforme, qui a un muscle vraiment à l'intérieur de la fesse, qui peut donner des douleurs de type sciatique, comme on entend couramment. Il faut travailler, étirer ce muscle-là. Il y a d'autres muscles qui passent à ce niveau, qui est le psoas iliac, qui peut donner des douleurs lombaires. Il vient s'insérer également sur la hanche. Des douleurs référées peuvent intéresser également la fesse. Selon les autres douleurs que l'on peut rencontrer, ce sont des irritations, des cloques, des indurations aussi. On parle de troisième testicule aussi chez quelques coureurs sportifs, parce qu'il y a une induration qui se crée à ce niveau-ci. Et ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est l'hygiène. Il faut avoir une très bonne hygiène à ce niveau, parce que sinon, les irritations sont majorées.
Oui, c'est quelque chose qu'on peut sentir effectivement pas mal sur des longues distances. C'est vrai que avec la transpiration, on a tendance à perdre pas mal de sel, et donc en fait, ça peut devenir très irritant. Pour revenir sur le triathlon, c'est vrai que en général, on a tendance à utiliser pas mal de vaseline. Donc que ce soit effectivement au niveau de l'entrejambe ou au niveau du cou par exemple, pour retirer la fonction en néoprène plus rapidement et surtout éviter les frictions pendant la partie natation. Donc je pense que c'est définitivement quelque chose à mettre sur la checklist de tout triathlète qui va entamer une course, ne jamais oublier son pot de vaseline.
Puis on en reparlera, mais ça peut protéger aussi si l'eau est un peu froide. Ok, du coup, oui, pour revenir là-dessus, comment est-ce que on guérit ce type de blessure? Donc tu l'as dit, si c'est une atteinte musculaire, ça va être même après la blessure, des étirements, de la mobilisation, du travail avec le thérapeute. On le rappelle, hein, en cas de blessure, faites-vous accompagner par des spécialistes. Tu vois d'autres solutions, notamment pour les blessures au niveau du fessier. Alors, passons outre les irritations, parce que le meilleur moyen de guérir une irritation, c'est de mettre de la pommade et d'attendre que ça passe, enfin, de pas reprendre l'entraînement ou la compétition sur une irritation. Mais vraiment, si on parle d'atteinte musculaire, comment est-ce qu'on peut résoudre ces blessures?
Comme les autres types de blessures, ça sera vraiment, tu l'as dit, Armano, ça sera un accompagnement correct avec un thérapeute, venir travailler, cibler les groupes musculaires qui sont atteints, cibler en fonction de l'individu et de sa morphologie les exercices en charge ou en décharge, et en fonction de la gravité de l'atteinte, savoir respecter un certain temps de repos et une mise en charge, une mise à travail de manière progressive. Du coup, on peut pas donner de ligne directrice. On peut donner de grandes lignes. Par exemple, on parlait tout à l'heure des 30 secondes d'étirement à réaliser 4 ou 5 fois. Mais voilà, évidemment, on est tous constitués de manière différente, on est tous différents. On soulagera la personne de manière individualisée et propre à chacun.
Super. Bah, merci beaucoup, Mehdi, pour toutes ces précisions. Messieurs, je vous propose qu'on en reste là pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, une image globale des blessures en cyclisme appliquées au triathlon. Et je vous donne rendez-vous demain pour finir cette série avec les blessures appliquées à la course à pied dans le triathlon.
Super. Merci, Romano. À demain.
Ok, ça marche. À demain. Salut tout le monde.
Merci, Mehdi. Merci, Olivier. Ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. OHANA.boutique. À tout de suite pour votre première commande.